Alors, pour sauver du temps, on va poursuivre tout de suite avec la troisième session de la journée. Et on a deux présentations. Une par Sébastien Billiot, qui est prof d'études chinoises à Paris 7, qui combine dans son approche l'anthropologie et l'histoire, qui vient de sortir un livre sur le mouvement confucien en Chine. Et de l'autre côté, on a aussi Liv Hsun, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de la Réunion. Sébastien va commencer.
Bonjour à tous. Vincent m'a suggéré de parler en anglais. Donc voilà, je vais changer de langue aussi. So I'm going to talk today about the globalization of Iguandao, basing myself on a case study which took place in Maison Alfort in France, in the suburb of Paris. The presentation is structured as follows. A few words about the Iguandao, then I'm going to speak about my research and hence the problematic, and describe a number of ideal types of adepts in France. And then I will ask whether the key factors of success of Iguandao's development in Asia can be found as well in a French context, which is completely different. And I will draw a few preliminary conclusions. A few words about the Iguandao for the ones who would not know about this organization. That's an ancient syncretistic organization, religious organization, that tries to combine the different Chinese teachings, Confucianism, Buddhism, Taoism, but that includes also Islam and Christianity. And this is an organization that has been described as many as a redemptive society, as those organizations that developed in the 1930s and 1940s in mainland China. The Iguandao claims to have a Dao Tong that can be traced back to, let's say, the whole Chinese civilization that includes most of the figures of that civilization. It is also promoting some sort of millenary eschatology, which is an important feature of the organization that considers that basically the world is going to get to an apocalypse, and salvation in that context is an urgent thing to carry out. And of course, Iguandao is proposing a way of salvation to the different people. The modern history of the Iguandao has been very difficult, since this sectarian tradition has been forbidden in China after 1949 and developed quickly after 1987 in Taiwan, and is now expanding all over the world, which is interesting at the moment. You've got people carrying out research a bit everywhere, from South Africa to South America, Europe, Vancouver, with Philip Clark, and so on. So this is this paper is basically a contribution to this research about the globalization of the Iguandao. So my research took place in a Fo Tang, a place of worship, in Maison Alfort, not far away from Paris. The Iguandao is structured in lots of different branches, and research focused on a branch called Fai Ziti, and which was a kind of a cousin branch from another branch that I studied before in Hong Kong, Taiwan, and the mainland, which was called Fai Chongde. So these are two branches, very close branches, which makes comparisons easier. It's a very conservative branch, and it was not very easy to get inside. The branch has opened a Fo Tang in the suburb of Paris, which is I'm going to show you a picture afterwards, a big house that can accommodate something like 200 to 300 people coming regularly for worshiping sessions. And this development has a history in France as well. This Fo Tang in Maison Alfort was opened something like in the 1990s, And before that, there was another photon in Le Blanc-Ménil, which is another suburb of Paris. The best thing maybe is to show you a few pictures. That's the photon, that's the place of worship. And these are a few pictures of the activities taking place inside. Here you have the altars. You have two altars, one very typical of Iguanda photon with the main idols positioned on the altar, and the other one with the main patriarchs of the movement. Okay, I'm not getting too much into the details at that point. Here you have a picture of Confucius, since you've got lots of classics reading sessions taking place in the photon. And you've got lots of different activities, like spirit writing activities here. And you've got a circulation of leaders, religious leaders coming from Taiwan. Here you have an example. That's the leader, one of the leaders of this Fai Tzu-Ti branch coming from Taiwan to visit the French photon. Okay, that's spirit writing. We can come back on this afterwards. You've got in the main dining hall, you've got lots of activities that are carried out, including, of course, a vegetarian meal, since Iguanda is a vegetarian organization. So basically, I did some participant observation here. I took part to lots of different ceremonies, classes, meals, and so on. And then I also interviewed a number of adepts, like 26 different persons altogether, for very, let's say, for just interviews. And then I had more formal interviews with a number of leaders of this organization, not only this photon, but also leaders coming from Taiwan. So my main issue was to try to understand to which extent the dynamic that I have analyzed in other contexts in Asia could be also encountered here in the French context. And what are the difficulties encountered by a new religious, Chinese new religious movement as regards its expansion in France? I'm going to go quickly over these. There are lots of similarities between what you can see here in Iguanda photon in Paris and what you could see in Hong Kong or in Taiwan, especially the way the adepts are trained. Iguanda emphasizes a very systematic training of its adepts, you have systematic training sessions. People go there almost every weekend to have classes and so on, and that's something that you can find as well. You've got also an important stage, which is the Dharma seminar. It's the kind of seminar that people take part in after their initiation into the movement, and where they learn about the organization. And basically, all these kind of, activities were very similar to what I could see elsewhere. And things took place in three languages, in French, in Chinese Mandarin, and in Thai, since you've got lots of people coming from Thailand or of Thai stems. Regarding ideology, I could see very obvious differences between France and Hong Kong. You have many more explanations about the movement, its history, its difficult history, when you are in Hong Kong than what you are in France, where most of the adepts know very little about the Iguanda ideology. I've been struck as well by the weak, importance ascribed to the leaders in France. When you are in Asia, there is a kind of worship of the dead leaders, which is absolutely impressive and has a very strong emotional dimension, a thing that you don't find in France at all. And I also found out that the millenarian eschatology was much weaker in France than what I could see in Asia. What was primarily fostered was a kind of self-cultivation of the people rather than a very strong ideology, religious ideology. And another important thing was that the organization, Iguanda is a really well-structured organization. And this, you could find it in Asia, and you could also find it in France. So in order to delve into the movement, maybe I'm going to give you a few ideal types of people that are that you can find in this photon so that you get an idea of who is doing what there. The first thing is that to mention that around 90% of the population of adepts are from Asia, which does not mean that they are from China. Most of them are coming from Indochina, so they are Huaqiao. You can find from time to time Chinese or Taiwanese, but they are not so many. You have a number, an important Thai community in this photon, and Thai language is used by many people. And you have a number of families coming to the photon. That's another important feature. I'm going to show you four ideal types. The first ideal type is the adept missionary. That's the kind I tried to, of course, ideal types are just heuristic tools, so they are just here to provide an overall mapping of what you can find in the photon. The adept missionary, le pratiquant francisé, that's the kind of a bicultural adept, and then you've got the religious individualist and the follower. I start with the adept missionary. Basically, the adept missionary is someone who is totally convinced by the Iguanda faith, and he wants to save the other ones. Because there is an obsession, and that's obvious in Asia, which is that the people think that they can save themselves by saving the others. And hence, the need for the adepts to go and invite people to come and ask for initiation. That's something that you find everywhere. And what I call the adept missionary is really the adept who's gone through the whole process of training and totally embraces the Iguanda faith, has little doubt about this faith, and tries to propagate the Tao to absolutely everyone. So that's the adept missionary. In this photon, you don't have so many people who are adept missionaries, and you've got many less people than what I could find in Hong Kong, for instance. I would say that you have around 300 people coming regularly to the photon, and if you've got 10, 15 adept missionaries all together, that's maybe the maximum. I mean, people who are really convinced, they dream about the Iguanda. When they see yourself, they want to convert you, they want to save you, and this is some sort of obsession. The second category is the bicultural adept. That's very different. Most of these people are born in France of Asian stock. They are Asian. Basically, they're Asian, but they are bicultural. They are completely French, and they have a kind of a Asian cultural background. And for the most part of the time, they've grown up in a context where they've been in touch with adept missionaries. But themselves, they are not adept missionaries. They leave their faith in a way which is much closer to what, for example, Catholic people would leave their faith in France, which means that, in other words, their faith is much more an individual matter than something that they've got to promote. And so they are not very much involved in proselytization, which is a big difference with what you can see elsewhere. The third ideal type is quite interesting. It's what I call the religious individualistic. This is interesting because here you are not simply talking about people coming from Asia. You've got lots of people from France with no special relation, I mean, at least family relation to Asia. You can even have people from North Africa, from the Middle East. I mean, it's not a big number of people, but these exist. You have people who have nothing to do with Asia originally and who join this movement. And what's interesting is that here you have a kind of bricolage religieux. And that's really interesting. Most of the people that you meet in this context are people who've tried all kinds of different stuff. Many of them, for example, had previous experiences in Buddhism. They've tried Buddhism, sometimes they've tried Tibetan Buddhism, sometimes they've tried elsewhere, and then their itinerary goes from Buddhism to something else. And basically, they're not necessarily going to stay for a long time there. Afterwards, most of them would maybe go to try something else. They are very typical of this bricolage, of this, let's say, do-it-yourself kind of religious modernity, where you experience different kinds of stuff in a spiritual itinerary, which is very much yours. And I had a few examples, which are interesting. Maybe I can quote a few of them, because there is very little research at the moment about non-Asian adepts of this kind of sectarian movement. For example, a person, I was very impressed by him. He's around 50 years old. He's grown up in Normandy. He's working in a technological company. He's well-educated. And he's now really an Iguandao adept. He takes part to all kinds of classes, rituals. And he says, "Ce qui me plaît le plus ici, c'est que cela fonctionne. En pratiquant la voix, on se sent mieux, on se sent transformé. C'est en cela que la voie de la valeur, il faut pratiquer, car une voie est faite pour être empruntée." And I asked him about proselytization. Do you want to promote the way now? And he said, les choses se font simplement au cours de discussions. Le plus important n'est pas d'essayer d'aller convertir les autres. C'est l'exemplarité qui compte. Nous sommes comme des cailloux lancés sur une surface d'eau. Notre exemplarité se diffuse. So he's not obsessed with proselytizing, but when the opportunity comes, he would of course meet it and he would try to introduce the way to different kinds of people. Another guy was 55 and he was first practicing Tibetan Buddhism and Then he kind of criticized Iguandao and said, leur manque de recul m'énerve parfois et me donne envie de fuir, mais il faut passer outre. Si on est trop critique, on ne peut pas entrer dedans et réaliser que ça nous fait avancer. Il faut jouer le jeu. Pour moi, cela représente une étape. For me, this is just a stage. I'm doing this today. I will do something tomorrow. Iguandao is just a stage. He's a Fangbian for me at the moment, and it's just a stage in my itinerary. Sometimes you've got people that are a bit, let's say, less articulate than the two I just mentioned. One of them was coming from the Jehovah Witnesses before and claimed to still be a Christian, but he criticized the Jehovah Witnesses and said that he was very happy to come to this Buddhist organization. He thinks that this is a Buddhist organization, as many people think. They are totally unclear about what the Iguandao is, and kinds of combines the two. Another example, and it's going to be the last, was a 60 years old from Poitou, who was a medical secretary. She was Catholic in her youth, and she believes to be in a kind of Buddhist organization because she embraced Buddhism. And she blends this Buddhism with Christianity. J'ai tout de suite compris le sens de la voix à cause du ciel, de la mer, des disciples. J'ai retrouvé des choses de mon catholicisme. C'est une sorte de synthèse. J'essaie d'amener à la voix une amie qui est atteinte d'un cancer. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle m'a dit de bien prier la Vierge Marie. So you just meet people who are totally, I mean, unaware of what really happens, but for whom taking part to these rituals brings some sense and value to their lives at a specific point of time, and who for most part of the time will afterwards do something else. My fourth ideal type is le suiveur, the follower. That's not very interesting. You've got a number of people who are here because their wives are here, for example, and they want to take part to the act, to be nice with their wives, let's say it simply, so they will come, but don't know much about the movement. And you also have a number of elderly Asian people who come to the Fotong most part of the time for the sense of community that they've got here when they are with friends and families and so on. So that's not real religious dedication, but rather a sense of belonging to a group or a community that's most important for them. So to which extent key factors of success of the Iguandao in Asia. Iguandao is a movement that is developing with an incredible speed in Asia now. That's really the archetype of a strong transnational organization, religious organization. To which extent all of these key factors of success are existing in a French context? This is linked for me to another research project. Completing a book this year that identifies the different key factors of success of Iguandao expansion in Asia. There are four of them. The first one is that Harvard identified the role of Confucianism as critical. Confucianism is used as a regulator of tension. We could speak more about this afterwards for the Iguandao in a context where Iguandao is still forbidden or encounters political or social pressure in different parts of the world, and of course, especially in the PRC. The second element is the specific ways of confirming one's faith. That's a question, a Weberian question of the Bewährung, of the faith confirmation. And saving the others basically is a way of confirming one's faith for the Iguandao adepts. So that's identified as another key factor of success of the dynamics. I mean, by confirming my faith, by saving the others, I also contribute to the expansion of the movement. The third factor of success is the charisma. There is an incredibly strong charismatic authority in the Iguanda. And this charisma is existing even though it is channeled towards dead leaders. And that's a very important point because since Max Weber, the question of how charismatic authority is going further in organizations after the death of charismatic leaders is always important. And in the Iguandao, there is it works. I mean, we can speak about this afterwards. And the last factor of success is the way the movement is structured and organized. Iguandao, basically, it's McKinsey applied to religion. So, to which extent do these four factors of success apply to a French religious context? First, the role of Confucianism as a diffuser, a regulator of tension. Basically, I've got 4 minutes, but it should be fine. You have a context in France where the tension is not the same, of course, as in China, where the organization is forbidden. And there is very little that Confucianism can do to diffuse a tension that is not really existing, apart from in the minds of the local leaders of the Iguandao. And therefore, there is no role in that respect. The Confucianism does not play a specific role. A question that I asked myself was to which extent could Buddhism play a specific role in a French context? Because lots of the people I could interview had a previous experience in Buddhism. They were Buddhist adepts and then became Iguandao adepts. That's true for a number of non-Asian people, but that's mainly true for the huge number of Thai people that you find in the Pho Tang, where they all had Buddhist backgrounds before. So it's not a question of tension, but let's say there is a religion, Buddhism, that helps people to maybe get into the Iguandao. Second point, the missionary. One of the factors of the dynamism of Iguandao was this idea of being a missionary, saving myself. To save myself, I have to save the others, and this is beneficial to the whole expansion of the movement. Here, what is striking in France is that this obsession of saving the others is not here. So this factor of success of the Iguandao in Asia, like the movement is expanding because people want to save themselves and therefore, to save the others, and this is beneficial to the movement, this is not existing in France. This does not work in that way. The third point is the a strong emotional charisma. I've been surprised by the fact that basically people in France pay little attention to the ancient leaders. They don't have the same kind of emotional attachment than the one they've got in Asia. And that's a very, very striking difference. So this factor of success in Asia is not existing in France either. And something that is existing is the same kind of very strong organization. So the way they're structuring the proselytizing effort, and everything is organized by a Taiwanese initiator. Initiator means basically that their priest, that their clergy, is working working well. So what does this Iguandao case tell us about the development of the Iguandao, overall development of the Iguandao? First, it tells us that the Iguandao is able to develop itself in a non-Asian context, and that it works also outside of a purely Chinese or Chinese-speaking community, since this includes Thai people and a number of people with no relation whatsoever with Asia. And but this development does not have the same solid basis as the one that you could find in the Chinese world. And that's basically a slow development. David asked before how many people were, if let's say Chinese religions in France were a tsunami regarding the Iguandao, that's maybe a few hundred people all together. I did a bit of number crunching. If we can reach the overall figure of 5,000 Iguandao adepts in France altogether, that's the maximum figure, I think. I might be wrong. There is no statistics existing after that. That's just maybe some guess, but let's say it's realistic. And whereas Iguandao is developing very quickly over everywhere in Asia, today's, you don't find the same key factors of success in France, and this is maybe the limits of the current Iguandao development. Okay, I think that I'm still in the close. Okay.
Merci beaucoup.
Donc, on va changer de lieu géographique. Hein, on va aller au soleil, à La Réunion, une île située donc dans le sud-est de l'océan Indien, où il y a une communauté chinoise qui est installée là-bas depuis 130 quelques années, parce que bon, on ne sait pas trop qui, dans les statistiques, a enregistré les premiers Chinois arrivés à La Réunion. Donc, c'est une ancienne communauté qui est installée là-bas. C'est aussi une vague, plusieurs vagues migratoires, hein, qui ont donc peuplé cette île, et donc les Chinois font partie de cette composante, hein, composante anthropologique donc des habitants de La Réunion. Et donc La Réunion, c'est une courte histoire, c'est 350 ans d'histoire, c'est une société multiculturelle, hein, qui est donc qui a été peuplée par des populations venues des 5 continents. Donc là-dessus, il subsiste de nombreuses pratiques religieuses qui sont restées en dehors, bien sûr, des grandes religions, le catholicisme, le protestantisme et tout le protestantisme évangélique. Hein, il est resté donc des pratiques. Je vous montrer très rapidement quelques photos. Ici, des rites de possession, hein, des rites de transe, de possession. C'est encore une... Hein,
on ne les voit pas.
Vous ne voyez pas? Ah, je vois là, ici. Oui.
Alors,
il faut fermer celui-là.
Il faut fermer le PowerPoint.
Oui, il faut fermer ça.
Et puis ça va montrer l'écran.
Ah oui, sinon tu as deux, donc il faut fermer.
Oui,
il
peut pas.
Tu fermes d'abord, c'est
possible. Oui, mais il faut l'eau.
Celui-là.
Attends.
Voilà. D'accord, donc voilà, je vais vous montrer quelques photos hein, de pratiques qui subsistent, qui aujourd'hui sont revenues sur la scène sociale, sur le paysage social de La Réunion. Il y a aussi d'autres, par exemple, voilà, c'est toujours hein, des trans, des possessions, des sacrifices d'animaux. Bien sûr, des marches sur le feu, marcher sur le feu, c'est aussi pratiqué, il paraît que moins en Inde, voilà, bon, aussi un prêtre jésuite qui marche sur le feu, bon, c'est comme ça, c'est La Réunion, hein, donc voilà, ça c'est un cavadi, c'est-à-dire que c'est un rite d'expiation, hein, bien sûr, hein, avec des aiguilles, des hameçons où on accroche, si vous voulez, voilà. Hein, donc c'est juste pour montrer quelques photos. Et puis là, on arrive au sujet d'aujourd'hui, c'est le Deepavali. Un Deepavali, donc voilà, un défilé de chars à La Réunion. Voilà, c'est juste vous mettre un peu dans l'ambiance, si vous voulez, avant de oui, oui, oui. Donc là, c'est ça, c'est bien sûr le Gwandi, la fête de Gwandi. Alors, donc dans mon intervention d'aujourd'hui, c'est que bien sûr, hein, elle découle, si vous voulez, des études déjà menées 3 ou 4 ans auparavant. Il y a eu donc des workshops que nous avons eu en Ossoie, puis en Foconchan. Mais là, c'est la dernière phase où j'ai voulu, si vous voulez, comparer la fête de Gwandi, mais avec une fête d'une autre communauté, qui est la communauté tamoule, hein, qui est la communauté tamoule, donc qui pratique ce qu'on appelle les Deepavali. Deepavali. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, 90% des habitants des Réunionnais sont catholiques. Mais bon, une partie parmi eux continue à pratiquer une deuxième religion, quelquefois même une troisième religion. Donc longtemps, pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ces religions autres que le christianisme ont été pratiquées dans la sphère privée, hein, dans la famille, dans les temples collectifs, hein, mais que parce que ils étaient confinés, parce que l'Église catholique, bien sûr, le pouvoir colonial, hein, les interdisait de pratiquer leur culte, tout simplement. Mais c'est en 1981, en France, il y a un changement, une alternance politique, la gauche arrive au pouvoir, et que cette arrivée au pouvoir s'est traduite, si vous voulez, dans une politique de décentralisation, de régionalisation, c'est-à-dire que désormais, ce sont les régions hein, qui décident de gérer leur politique sociale, économique et culturelle. Et donc à La Réunion, les années qui ont suivi 1981, sont marqués par des manifestations de retour aux sources, c'est-à-dire des renouveaux identitaires, des affirmations identitaires, dont les plus visibles, ce qu'on voit, c'est bien sûr donc les Deepavali, mais aussi je remets en anglais parce que je remets en anglais pour c'est là. Voilà. Donc je disais que après ce changement politique, les manifestations les plus visibles, c'est bien sûr les Deepavali, c'est aussi la reconnaissance de l'abolition de l'esclavage, c'est également les revendications pour la langue, la culture tamoule, et en dernier arrive, si vous voulez, la fête de Gwandi. Hein, c'est-à-dire que toutes ces manifestations vont, depuis les années 80, occuper l'espace public, une réappropriation de l'espace public. Et donc, si je fais cette introduction, c'est parce que en 1983, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc il y a une loi qui confère, qui donne donc, qui consacre l'abolition de l'esclavage comme une fête de la liberté. Et cette fête de la liberté a été très très importante, pas seulement faire des défilés, faire des manifestations culturelles pour l'abolition de l'esclavage, mais surtout cette abolition, cette reconnaissance qui a un jour chômé, donc le 20 décembre, c'est que ce jour-là, à partir de ce jour-là, il y a un rite de possession, les rites de transe de possession, hein, va conquérir aussi l'espace public et devenir de plus en plus visible, hein, de plus en plus visible, et qu'il sort de l'ombre, hein, ce rite-là, et que aujourd'hui il est mieux connu par le public. Donc si, dans cette dernière phase de mon étude, hein, dans les précédents, je parlais de méthode, je parlais aussi d'appropriation de la fête de Kondi par les Réunionnais, aujourd'hui, c'est d'essayer de questionner l'impact qu'a eu le renouveau sur les Chinois et les Tamouls, et sur cette émergence, hein, si vous voulez, hein, de l'appropriation de l'espace public et l'émergence de Kondi et du Deepavali. Hein. Donc, d'abord pour les Tamouls, ils sont présents déjà à La Réunion depuis presque au début, hein, du peuplement de La Réunion. Hein. Les Chinois sont venus beaucoup plus tard, ils sont là depuis à peu près 160 ans, quoi qu'on ne sait pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de relevé statistique, hein, pour dire qui est arrivé là-bas en premier. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit les Tamouls, que ce soit les Malgaches ou les Africains, ces deux derniers groupes ont été des esclaves, étaient travailleurs sous contrat, les engagés, comme on dit là-bas, et les Chinois sont venus en tant qu'engagés, mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire à peu près avant, deux ans avant l'abolition de l'esclavage, hein, avant 1848. Alors que les Tamouls sont là depuis 300 ans, hein, ils sont arrivés comme esclaves parce qu'il y a eu, hein, des contrats qui ont été signés avec l'Inde du Sud. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire toute l'histoire, la communauté chinoise compte 25 000 personnes, alors que les Tamouls représentent environ 250 000. Et donc ces deux composantes anthropologiques de La Réunion ont recréé des lieux de culte, ont vénéré leurs dieux pour rendre hommage à leurs ancêtres, et que pour les Chinois, il n'y a que quatre temples dédiés à Kondi, alors que les Tamouls, ils en ont à peu près une cinquantaine, mais répartis dans toute l'île, mais des grands temples que je vais revenir tout à l'heure. Donc Kondi et Deepavali sont deux fêtes communautaires qui font désormais partie du paysage de l'île de La Réunion, et que ces deux fêtes s'inscrivent dans le jeu des enjeux culturels, interethniques que La Réunion vit depuis une trentaine d'années. Et ces deux fêtes donc sont issues des mouvements de renouveau culturel ou identitaire nés dans les années 80 et qui sont des mouvements de retour aux sources, c'est-à-dire des mouvements de retour au pays d'origine des parents et des grands-parents. Les pratiques de l'hindouisme ont été interdites durant la période coloniale et elles étaient également discréditées après la départementalisation de 1946. La Réunion est devenue un département français d'outre-mer après 1946, comme n'importe quel département, comme la Corse, les Antilles, etc. etc. Et donc, s'ils étaient interdits et discrédités ou relégués vraiment dans la sphère privée, c'est qu'elles sont tolérées quand même. Elles sont tolérées, ces pratiques de l'hindouisme sont tolérées, à condition que les cultes soient conservés au sein des temples familiaux. Les temples familiaux sont des petits temples que les familles donc construisent, hein, les familles tamoules construisent pour rendre hommage tout simplement, ou pour adorer leur divinité. Et donc, à cette époque-là, les Tamouls étaient contraints de s'intégrer, entre guillemets, dans la société réunionnaise, d'adopter la religion catholique, sans quoi leur promotion sociale, par exemple, ou l'inscription de leurs enfants à l'école peuvent être retardées ou tout simplement bloquées. Et donc, cette situation a entraîné, pour de nombreux Tamouls, à abandonner leurs croyances, ou pour d'autres, à adopter la double pratique religieuse. Et que c'est dans les années 70 qu'une élite, intellectuelle, bon, je n'ai pas le temps de revenir sur le développement économique de La Réunion, le développement s'est passé à peu près dans ces années-là, 1970. Donc une élite économique et intellectuelle, tamoule, désireuse donc de revaloriser leur héritage, qu'ils trouvent beaucoup plus prestigieux que l'hindouisme populaire, créole, syncrétique. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir dans le Tamil Nadu, le pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils vont revenir au Tamil Nadu, et c'est dans cette région de l'Inde qu'ils vont donc se refaire une identité, hein, c'est-à-dire créer une nouvelle identité que eux ils ont déjà perdue parce qu'au bout de 3 générations, 4 générations, ils parlent plus tamoul, ils parlent plus, ils ont plus perdu cette identité-là. Et donc cet été-là repart en Inde du sud, le Tamil Nadu, reviennent quelques années après quelques peut-être connaissances de la langue, de la culture tamoule, et c'est en 1972 qu'ils vont publier le premier livre tamoule pour apprendre la langue tamoule. Hein, c'est à cette époque-là également qu'ils ont commencé à faire un retour au mariage tamoul, au mariage hindouiste. Hein, mais c'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont commencé à réapprendre et à pratiquer ces rites funéraires, hein, ces rites funéraires hindous. Ils vont faire recours aussi au prénom tamoul pour leurs enfants, etc. Et ils vont revendiquer également, certains vont même militer jusqu'à qu'on abandonne leur double pratique religieuse, le catholicisme et l'hindouisme, hein, mais toujours créole, populaire, si vous voulez, avec les sacrifices d'animaux, vous voyez, c'est cette identité-là. Pourquoi faire? Pour adopter tout simplement l'hindouisme comme religion exclusive. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette lancée? C'est que cette élite économique, intellectuelle, avec des associations, avec des jeunes tamouls également, vont se réunir donc dans une association qui s'intitule tout simplement la communauté tamoul. Et donc, c'est aussi dans cette période-là qu'ils vont opter pour une nouvelle orientation religieuse qui consiste à faire venir des prêtres brahmanes de l'Inde du Sud, dont la finalité est de pratiquer un culte selon le système religieux des hindous orthodoxes. Donc on est très loin, si vous voulez, de cet hindouisme créole populaire, hein, voyez, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent tout simplement que les rites malbars, qui sont d'origine dravidienne, sont pratiqués depuis le début, si vous voulez, de l'immigration indienne à La Réunion. Ils considèrent que ces pratiques sont frustes, sont sanguinaires, parce qu'il y a des sacrifices d'animaux, etc., etc. Et donc, cette nouvelle orientation religieuse provoque bien sûr des réactions critiques, des réactions bien sûr assez vives de la part des Poussaris. Des Poussaris, donc, ce sont ces prêtres locaux qui officiaient, si vous voulez, jusque-là, même aujourd'hui, dans ces temples populaires, hein, de l'hindouisme créole. Et donc, il y a aussi une autre pratique que ce renouveau identité hindouiste, brahmanique, donc, c'est que les temples anciens, les temples hindous anciens, hein, donc plus anciens, remontent au 19e siècle, qui sont construits en bois, ici, ou en paille, et plus tard également, lorsque certains temples ont été construits en dur, c'est-à-dire en maçonnerie, ben, petit à petit, d'année en année, cette élite tamoule vont restaurer et remplacer, hein, ces temples par des grands bâtiments prestigieux, avec toutes les statuettes des divinités telles qu'on les voit, hein, si vous voulez, un peu partout en Inde, mais aussi un peu partout dans le monde où il y a une forte diaspora tamoule. Donc ils vont en même temps restaurer, remplacer par des grands bâtiments religieux, hein, mais selon toujours les normes et les formes architecturales traditionnelles du Tamil Nadu. Donc ce mouvement du renouveau tamoul entre donc dans une logique de valorisation ethnique des éléments linguistiques, culturels, bien sûr religieux, du Tamil Nadu. Et que les membres de ce mouvement expriment ainsi donc leur volonté de se démarquer de leur culture populaire, locale, créole, qui est forgée donc depuis des décennies, même peut-être une centaine d'années d'expérience migratoire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette élite, les membres, ils sont partis chercher leur légitimité dans une Inde du Sud magnifiée, hein, dans des aspects les plus brillants de cet hindouisme brahmanique, hein, basé sur une spiritualité, le végétarisme, le faste religieux, la musique carnatique, etc., etc. Et que l'enjeu de ces démarches, c'est l'affirmation de leur différence. L'affirmation de leur différence en vue de sa reconnaissance par la société réunionnaise. Donc cette re-indianisation de la composante anthropologique tamoule de la Réunion passe aussi par l'introduction de la fête de Deepavali il y a aujourd'hui 27 ans. On est à la 27e version, et que l'objectif des organisateurs est de donner une nouvelle impulsion aux festivités religieuses indiennes. Il s'agit donc de sortir du cadre restreint des temples pour aller s'approprier l'espace public réunionnais. Donc, on est arrivé. Je ne veux pas parler d'Ipavali, fête de la lumière, hein, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur l'ombre, avec toutes les divinités, bien sûr, Vishnu, Brahma. Bon, ça, c'est. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Mais pour revenir aux Chinois, donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils font, hein, ils font que 20 ans après les Tamouls, les Chinois, hein, ont toujours à La Réunion fêté l'anniversaire de Guandi. Ils ont toujours fêté l'anniversaire de Guandi selon un rituel immuable complètement. Moi, j'ai montré des images lorsqu'on était, je crois, au soir, hein, comment cette communauté chinoise célèbre Guandi avec un rituel immuable, et que chaque année, donc, avec un rituel, on vient brûler de l'encens, on vient verser, si vous voulez, du thé, du rhum, hein, par terre pour les ancêtres, etc., etc., par rangée, etc. Enfin, j'ai pas le temps non plus de revenir là-dessus. Mais c'est en 2004, le plus important, c'est la date 2004, marque un tournant dans l'organisation de la fête de Saint-Denis, la fête de Guandi à Saint-Denis, c'est-à-dire le chef-lieu, enfin le capital, mais ce n'est pas le capital, le chef-lieu du département. C'est que la cérémonie commémorative pour l'anniversaire de Guandi a pris une nouvelle orientation qui se traduit donc d'une part pour l'ouverture des temples au grand public, qui était fermé au public réunionnais jusque-là, et que d'autre part par des manifestations culturelles, mais aussi commerciales. Hein, la vente des objets importés de Chine, importés également des manifestations culturelles de Chine, etc., etc. Hein, je cite quelques exemples, la vente des objets artisanaux, des produits manufacturés, des séances de massage, des démonstrations de kung-fu, des concerts de musique traditionnelle, des spectacles acrobatiques. Je vais aller vite. Donc, à cette occasion, les Réunionnais découvrent un pan nouveau de la culture chinoise, inconnue jusque-là, du fait que la plupart des spectacles proviennent de Chine. Et que les initiateurs de ce changement, et on verra la comparaison avec les Tamouls, c'est que les initiateurs de ce changement sont un groupe de sino-réunionnais, des quadragénaires, entre 40 et 50 ans, la plupart des patrons, même des grands patrons, des cadres, ou des membres, si vous voulez, des professions libérales. C'est que leur objectif est de créer, avec une dizaine d'associations, un événement à des fins de communication institutionnelle, à l'exemple des fêtes déjà existantes à La Réunion, comme le Deepavali, le Kavadi, comme le Nouvel An Tamoul, mais aussi les fêtes catholiques, un grand rassemblement populaire qui occupe toujours l'espace, hein, cette problématique-là. Donc la fête de Guandi, à partir de 2004, et la dernière venue des grandes manifestations culturelles de La Réunion. Après, voilà, hein, après l'abolition de l'esclavage, après les rassemblements catholiques, etc., etc. Et donc, il s'agit de présenter la culture chinoise en mettant en exergue les prestiges de ses réalisations, la richesse des traditions chinoises, mais aussi la philosophie de ses pratiques. Et pour ce faire, donc, on va installer un village chinois, hein, c'est-à-dire, ils ont appelé ça le village des Han, hein, etc., et que sur ce village chinois, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pour exposer, bien sûr, les produits, les ventes d'artisanaux importés de Chine, pour installer des ateliers de cuisine, de calligraphie, etc., etc. Et donc, les trois jours de festivités de Guangdi sont consacrés à la valorisation chinoise, de la culture chinoise importée de Chine, ainsi qu'à la forte médiatisation des valeurs véhiculées par Guangdi. Et donc, le dernier point que je voudrais, là-dessus, j'ai pas le temps de donner les résultats de ça, c'est que un dernier point que je voudrais aussi insister et qui est en rapport parallèle avec le Deepavali et la communauté tamoule. Je refinis dans une minute. Hein. Donc, un dernier point, c'est dans, de ce renouveau identitaire chinois, il concerne aussi, bien sûr, l'architecture des temples. L'architecture des temples, c'est que depuis quelques années, la rénovation des temples chinois de Guangdi, donc à Saint-Denis, se traduit donc par l'adoption d'un style architectural chinois au niveau de la toiture, avec toutes les tuiles, mais aussi au niveau des murs, tout en se démarquant donc ainsi du style créole. Du style créole, c'est-à-dire des maisons en bois, en bardeaux, avec le toit en tôle. Hein, c'était ça les temples chinois de la Réunion. Donc tous ces temples-là aussi on a tendance, si vous voulez, à les détruire, à les remplacer donc, dans un style purement chinois comme on en rencontre aujourd'hui. Et le dernier projet des Chinois, mais surtout des Chinois du Sud, c'est qu'il y a la construction commencée en 2001 d'un nouveau complexe religieux et culturel dédié à Guangdi, dans le sud de la Réunion, c'est-à-dire à Terre Sainte, et que cette construction est en conformité avec les traditions architecturales chinoises, c'est-à-dire l'importation des matériaux de Chine, le fait de faire venir des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers chinois pour construire le temple, et que ce temple qui est bâti sur un terrain de 3 hectares, c'est un complexe qui comporte 4 niveaux, je vous montrerai les photos là parce que si j'ai encore une minute, 4 niveaux où seront installés donc un temple, le temple bien sûr tout à fait en haut, un musée de l'histoire des Chinois de la Réunion parce qu'il n'y en a pas, une grande salle de réception et puis un immense jardin en bas avec un petit lac comme on voit en Chine quoi, un petit jardin chinois avec des commerces, des restaurants, etc., etc. Voilà, j'ai encore une minute, je montre les photos et j'ai pas le temps de montrer, refermer l'autre. Voilà. Cliquer deux fois. Non, je voulais sélectionner. Non, je ne l'ai pas sélectionné. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on l'a vu. Donc ça, c'est ça le Guangdi. Alors, ces temples. Ce temple-là date des années 70. Date des années 70. Alors qu'avant les années 70, c'était un temple en bois. Les murs en bois avec, avec le toit en... Voilà, comme ça. C'était comme ça. Ça, c'est le style créole. Mais ce temple-là, il n'existe encore qu'à l'île Maurice. Je suis à l'île Maurice pour enquêter sur ce temple également. C'était comme ça. Et donc, depuis les années 70, on a ça. Vous voyez, c'est et puis ça aussi, c'est un temple qui date des années 70 jusqu'à l'an 2000. Et après, on a complètement changé. Vous voyez, on garde dans ce style créole un peu. Et maintenant, le temple, il est devenu comme ça. Vous voyez, ce temple-là, le temple qu'on a eu tout à l'heure. Et il est comme ça. Donc, il y a une resignisation, il y a un renouveau identitaire. Et le projet dont je vais parler en dernier, c'est ce temple dans le sud de la Réunion. Avec une salle, une grande salle, avec un lac, etc., etc. Voilà, merci. C'était très rapide.
I'll start the discussion with a question for each panelist. I'll start with you because My question for you is very short and simple, and my question for Sébastien is long and complicated. The question for you is the money that rebuilt the Chinese community and the new Chinese face, does it all come from Réunion, or does some of it come from China?
Only from Réunion. Okay. Yes.
Okay.
From the merchants.
Okay. For Sébastien, it's a more complicated question. First, when I was working on Falun Gong, I ran into your religious individualists as well, the same sort of people that went from group to group. And they were interesting in large measure because the Falun Gong people were extremely straight-arrowed. They were wore button-down collars, they worked in banks, they worked in computers, whereas the religious individualists were hippies. And they were a very strange mix. I'm not sure the Falun Gong realized what these people were really like. And the Falun Gong went to work and programmed computers. The other guy stayed home and wanted to bend spoons. So it was a very interesting mix anyway. But the question I have on the more serious question, it is indeed interesting that in France, the central element of the push to convert others isn't found, particularly since the Iguandao is a very organized thing, where they send people, the initiators come from outside and tell them what to do or oversee the organization. I wonder if in your research in Taiwan and Hong Kong and perhaps the mainland, did you observe similar differences between the groups? Or how do you explain the relative lack of this urge to proselytize?
I'm sure that there's an urge to proselytize on the side of the initiator and on the side of the ones I call adept missionaries in the Fortong. For them, that's an absolute urge. And the only thing is that it doesn't work with the other people that you meet in the temple. Most of the people who've got a French educational background, they're simply not necessarily interested in proselytizing as much as these. They consider religion as something individual, and that should remain individual. And I think that that's the most important difference. The difference is not between, let's say, leaders, kidders, in different groups. That's between the adepts. And of course, in the Paris Fortong, the leaders, they're quite aware of the mentalities of the adepts. And they know that the best thing to do to discourage people is to force them to put pressure to proselytize. Lots of people would go away immediately.
So maybe they tried in the beginning and realized it just wouldn't work.
This is possible. I don't have the whole background. But I think that it's a much more gradual process. They might hope that some, after a certain period of time, would finally get into this proselytizing mood. But they don't want to put pressure, and there is the velocity is not the same as the one you find in Asia.
Okay, other questions? En anglais, en français, so Adam?
Yes, I have a comment and question for Professor Lee. Right. So when the new temples are being designed and built, they must be replacing the old ones, because they usually are built on the same site because of the historical continuity and all that. So obviously, if we replace all the older temples, it would be a disaster in terms of heritage preservation, because, you know, especially if the design, material, craftsmen all come from China, replacing all the creolized styles in architecture and space arrangement and everything. So I would say this must be going on all over the world when the reorientation towards China is happening, attacking the previous low-class creolized styles. So that seems like a major disaster for the diversity of architectural religious practices. So what do you think of that, and whether there's any need for a call for global preservation of such diasporic Chinese style?
No, for the last temple, you know, I showed the pictures, they do not destroy the old temple, you know. They move to another place and they build a new one. So they preserve the old one. on this example.
But all that will eventually become a ruin, no?
I don't know, because we this is always a plan, you know. They're planning to build the new one, but they do not finish, you know. They did not finish to build the new one, yeah. So we will see in maybe in a few years.
Yeah. That'll be too late.
No, I do not hope so.
Je voudrais demander à Monsieur Biou, par rapport à Li Guantao, si il commence à former les enfants, si c'est-à-dire que c'est important la formation de l'âge très tôt, s'il y a des activités qui sont particulièrement dirigées aux enfants, que ce soit en Asie ou en France, et s'il y a des différences.
Alors, c'est pas la même question. En Asie, il y en a énormément. En Asie, il y a des classes de lecture de classiques pour les enfants absolument partout, donc c'est extrêmement important. En France, il y a des classes pour les jeunes, mais jeunes s'entendant pas comme des petits-enfants. C'est pas les enfants de 7 ans qu'on voit lire les classiques ou de 6 ans qu'on voit lire les classiques dans des temples taïwanais ou hongkongais ou chinois. Oui, il y a quelque chose pour les jeunes, mais j'ai pas vu à Maison Alfort. Mais peut-être n'ai-je pas tout vu. J'ai pas vu à Maison Alfort de classe destinée aux petits-enfants.
Est-ce qu'il y a des camps de vacances ou des
choses comme ça ? Pas en France, pas à Maison Alfort. Mais encore une fois, j'ai peut-être pas l'ensemble de tout ce qu'ils font.
Daniela avait une question.
Oui, mais c'est juste une question très factuelle en fait. Le site de Maison Alfort est le seul site Iguandao en France ou il y en a d'autres ?
En fait, Iguandao, c'est un mouvement qui est, très déconcentré. Il y a tout un tas de branches et de sous-branches. Et donc, c'est le seul site de la sous-branche, voire même de la branche que j'étudie. Mais il y a d'autres temples pour d'autres branches. Donc, ce n'est pas le seul temple de Iguandao en France, pas du tout. C'est le seul temple de cette sous-branche et sans doute de cette branche.
Donc, quand tu parles de 5000 membres, tu parles de...
De tout, de l'ensemble.
De l'ensemble des branches.
Mais c'est de l'ensemble, voilà. Mais c'est encore une fois, ça c'est juste number crunching. Hein. C'est juste essayer de faire des statistiques, mais ça repose sur simplement beaucoup sur mon imagination et sur des comparaisons avec ce qui se passe, les tailles relatives des branches en Asie et ce qu'on peut essayer de projeter si on se retrouve avec le même type de rapport de force entre les branches en France. Donc c'est pas complètement basé sur rien, mais simplement je suis pas du tout certain des chiffres que j'avance, parce que je les prends avec précaution.
Est-ce que ça reste semi-clandestin?
En France, il y a ça aucune raison de l'être particulièrement. Il se trouve que il me donne l'impression que cette branche est assez conservatrice et il me donne l'impression d'être assez caché alors qu'il y a vraiment aucune raison de le faire et puis qu'ils sont surtout pas, c'est pas du tout une secte au sens où on l'entend en France avec une abdication de sa propre volonté, etc. Les gens sont libres de venir, sont libres de partir, il n'y a pas de pression pour donner de l'argent, ça reste quelque chose d'assez ouvert. Donc cette attitude conservatrice me semble héritée d'une attitude asiatique. C'est des organisations qui ont eu à se développer la plupart du temps. Leur histoire, c'est un développement souterrain, parce qu'ils ont été interdits sur le continent, parce qu'ils ont été interdits à Taïwan, etc. Donc ils ont gardé ce culte, j'ose pas dire du secret, mais de la discrétion au moins.
À Vancouver, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison de se cacher, de se camoufler au Canada. Et quand même, Philip Clark a dû mettre du temps.
Et on avait une discussion tout à l'heure avec deux membres de l'Assemblée. Là, Sylvia, vous travaillez un petit peu sur l'Argentine. Vous avez rencontré des gens de Iguandao en Argentine. Et puis, il y a une autre dame, vous avez rencontré des gens au Pérou. Et vous me disiez toutes deux qu'ils étaient extrêmement secrets, alors qu'il n'y a pas de raison particulièrement de l'être dans ces territoires. On n'est pas en Chine continentale, où bien sûr, la menace de la répression et autres qui fait que... on se préserve.
Peut-être une dernière question.
Hello, it's for Sebastian as well. I've gone through maybe six organizations, Iguandao organizations in Vancouver. I've spoken to people and participated. I have lots of questions for later, probably, but one for now. I'm interested in this notion that the worship of leaders is not present in the context here, whereas in Asia, that worship is present. And if you could expand a little bit more on why you think that's the case. And I'll also mention that in Vancouver, in at least one case, that did seem to be present in a non-Asian context. A senior teacher was whispered to me by several members to be a living bodhisattva, you know, because of her dedication and kindness to people and so on. So what do you mean by worship? Is it simply a recognition of their more than human status in an Asian context, or is it reverence for their leadership, for their abilities?
No, I think that to a large extent, Yi Guandao perpetuates the ancient Chinese cosmology of a link between the invisible and visible dimensions of the universe, and dead leaders become somehow deified afterwards with, of course, all the care that you should bring to this notion, especially in a Western context. But they are Shen, they are here, and you pay tribute to them. It's not just a pure commemoration. They are present in the invisible world. And I would add something. You study spirit writing, and I've been struck by the intervention of dead leaders in mundane affairs, in present affairs, by the way of spirit writing. Like the dead leaders of the movement, they keep on giving instructions to the people, especially in terms of strategy, how to develop, what to do, and at what time this should be done in order to help propagate the movement. There is even one incredible thing that happened in Hong Kong. Dead leaders also attended some spirit writing session by the means of Skype. So dead leaders even absorb the latest technology after their death.
So same as the Fuge time in Hong Kong. Okay. Say email, though.
Oh, email.
Une dernière.
Bonjour. Ça marche? Oh. C'est une question pour Monsieur Liv. Vous avez parlé pour l'île de la Réunion d'une forme d'opposition entre la tradition hindouiste créole et puis le renouveau brahmanique d'une élite. Et je me demandais si la même chose s'est passée pour les Chinois entre une tradition sino-créole et ce renouveau de Guangdi. Est-ce qu'il y a aussi une opposition entre les deux et est-ce que certains de traditions sino-créoles se sont opposés entre guillemets à ce renouveau de Guangdi et
bien
les
sûr,
nouveaux
y a,
temples, etc.
Il n'y a pas d'opposition bien sûr ouverte, pas d'opposition ouverte, mais il est certain que une certaine partie j'ai des échos comme ça de la communauté chinoise, bien sûr, ils trouvent cela ce faste religieux, hein, tel que les photos que j'ai montrées, ça leur dépasse un peu, quoi, je veux dire, de voir ça, parce que c'est pas leur identité, c'est pas leur, c'est-à-dire que tout le personnel là-bas vont arriver de Chine, mais ils vont parler mandarin, donc il y a aucune, communication, alors que là-bas ils sont cantonnés, Waka, mais aussi Akka et cantonné, ils ont déjà perdu la langue, comme vous le savez. Cette génération-là, ils parlent plus ni en cantonais ni en akka, donc ils n'ont plus que le créole et le français. Donc, pour eux, bâtir ce complexe-là devient quelque chose d'étranger à eux, à leur identité. Mais aussi, ils voient ça comme une continuité pour les générations suivantes de ce retour, de ce renouveau identitaire.